Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et... Premier, bravo mon cœur. Super. Je vous promets qu'on ne l'a pas répété. Je suis Patrick déjà. Et... Ça y est, Emma. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a mon fils qui est juste derrière, qui voulait dire bonjour à Internet, et donc il est premier sur Mario Kart. Guillaume, j'imagine que tu as des problèmes comme ça dans tes enregistrements de podcast de temps en temps, toi aussi?
Ça peut arriver. En fait, j'ai la grande chance maintenant qu'il soit un petit peu plus grand et donc qu'il passe peut-être encore un petit peu plus de temps. Je ne sais pas si c'est bien, mais devant les écrans sans m'interpeller. Et en plus, j'ai un petit bureau à part maintenant, donc les conditions sont différentes.
C'est un petit peu exceptionnel, mais je suis heureux de vous retrouver quand même pour cette émission, malgré les conditions difficiles, d'autant plus qu'on a un programme. Je vais quand même vous dire le programme, hein, c'était dans l'intro, je vous promets que ce n'était pas répété, ça. L'event Microsoft Surface, qui a présenté différentes choses, certaines intéressantes, certaines un petit peu moins. On a aussi le Meta Connect 2022, qui est l'event de Meta, donc de Facebook, qui est très concentré sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et puis, on a plein de news intéressantes, comme des photos par ADN. Alors, je déforme la réalité, mais à peine. On a Uber qui intègre les taxis, on a le Navigo sur les smartphones, et on a plein d'autres petites news intéressantes sur les NFT et crypto, sur enfin plein de choses vraiment. Et je suis donc très heureux de partager cet épisode avec Guillaume Vendée qui nous rejoint, qui prend une petite pause de Tech Café pour venir dans le Rendez-vous Tech, ce que j'apprécie toujours. Comment vas-tu Guillaume?
Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation Patrick. Je suis un petit peu désarçonné parce que je m'attendais à suivre en plus ton visage sur Twitch, etc. Et je comprends donc que les conditions d'enregistrement sont différentes, mais c'est cool quand même, c'est tout aussi immersif en fait, c'est bien.
Tu sais, c'est marrant, mais tu as entendu ce qui s'est passé, hein, qu'il a crié « je suis premier sur Mario Kart ».
Bien sûr.
D'accord,
oui, on l'a entendu.
Vous savez ce qui s'est passé. C'est marrant parce que j'ai reçu cette semaine un message d'un auditeur qui dit, qui n'était pas très content, enfin c'était un commentaire sur iTunes, qui disait « oh, il nous parle tout le temps de ses maladies, et puis de sa famille, et puis de machin ». Et c'est un commentaire que je comprends, parce que c'est vrai que c'est une ambiance qui est différente de ce qu'on peut avoir dans d'autres médias, mais en même temps, c'est vraiment... C'est presque intentionnel, tu vois, c'est quelque chose que je fais parce que si les auditeurs veulent le journal de France Inter ou de TF1 ou j'en sais rien, c'est clair qu'ils sont pas au bon endroit. Moi, ce que je fais dans mes podcasts, c'est que... on essaye d'avoir quand même une certaine rigueur, un certain sérieux, hein, évidemment, mais je vous invite, depuis le début des podcasts que je fais depuis 15 ans, c'est que je vous invite chez moi, avec des amis, on est tous assis autour de la table... Et on discute des sujets qui nous intéressent. Alors, au fur et à mesure du temps, sur le Rendez-vous Tech en particulier, même sur le Rendez-vous Jeu ou d'autres, ça s'est un petit peu professionnalisé, un petit peu plus sérieux. Mais cette ambiance conviviale reste une intention. C'est comment dire, souvent comme ça dans les podcasts. Hein, j'imagine que c'est un petit peu comme ça chez toi aussi. Mais il y a vraiment une intention éditoriale d'avoir une ambiance détendue. Moi, j'ai pas envie de faire du truc hyper sérieux et des trucs... Les médias traditionnels font ça très bien. Moi, on est entre potes et je vous invite à être avec nous. Donc forcément, il va y avoir des trucs un petit peu comme ça de temps en temps. C'est un peu comme ça dans le podcast, hein.
D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait un petit peu penser aussi aux discussions qu'il peut y avoir à l'égard de Twitch, tu vois. Est-ce qu'il faut vraiment comparer Twitch à la télé? Est-ce qu'il faut comparer un podcast à de la radio? Finalement, c'est des médias très différents et il faut les prendre aussi pour ce qu'ils sont. C'est la convivialité, la proximité avec les gens qu'on aime aussi dans les podcasts. Donc,
ouais,
c'est cool.
Ça fait partie du truc qui est attirant, je pense, dans ce média et qui fait que les auditeurs apprécient, hein, ceux qui apprécient. Et d'ailleurs, il y en a certains qui apprécient tellement qu'ils deviennent patriotes. Et c'est ceux qu'on adore, ceux qu'on préfère presque. Non, on aime tout le monde autant, hein. C'est comme les enfants, on les aime tous autant. Mais on envoie quand même des merci à des gens comme Fredo Pro, David Averous, Laurent Lombard, qui ont rejoint les Patriotes, qui soutiennent cette initiative hybride entre professionnels et familiales, un petit peu, que sont les podcasts. Et donc, merci à vous trois qui sont devenus Patriotes depuis la semaine dernière. Un grand, grand, grand merci. Et merci aussi aux deux producteurs, Stéphane Lioret et Aubeuf, qui sont responsables, je ne sais pas s'ils ont signé pour ça, mais responsables de cette émission, de cet épisode. Donc voilà, si on dit des bêtises, c'est de leur faute, on peut dire ça comme ça. Merci Stéphane, merci Aubeuf et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Bon, du coup, je ne sais pas si on aura d'autres interruptions mignonnes comme ça.
Peut-être, peut-être. C'est tout. Bah, écoutez jusqu'au bout pour vérifier, forcément.
Oui, exactement, exactement. Et ça dépend en fait de s'il va finir premier ou troisième ou quatrième. Là, premier, c'est quand même difficile parce qu'il y a les batailles de venir. Quatrième, ok, mais c'est pas mal quatrième quand même.
Ouais, ouais, c'est déjà pas mal.
Ok. Bon, vous savez qui arrive presque quatrième, c'est Microsoft. Non, c'était la troisième conférence, je crois. Microsoft qui a fait sa conférence sur les Surfaces, qui sont sa gamme de, enfin qui est sa gamme de d'ordinateurs portables, d'ordinateurs et de tablettes et d'hybrides portables, dans laquelle ils ont présenté trois gammes de produits renouvelées, comme ils le font à peu près tous les ans. Alors, on a trois gammes aujourd'hui. C'est les Surface Laptop, qui est dans sa cinquième version. On a une version 13 pouces et demi et une version 15 pouces, qui sont des ordinateurs traditionnels, hein, avec des processeurs Intel, Dolby Vision, etc. Ça coûte un petit peu plus de 1000 euros pour les premiers modèles. Donc, c'est des ordinateurs portables classiques, mais quand même, il faut avouer que Microsoft met les petits plats dans les grands, les beaux designs qu'il faut, ils sont quand même de très grande qualité et ils sont assez appréciés pour leur qualité justement. Il y a aussi les Surface Pro. Les Surface Pro, c'est quoi ? C'est les tablettes, vraiment. Les tablettes qui sont auxquelles on peut ajouter un clavier qui se replie, tout ça, des stylets qui peuvent s'intégrer dans le clavier et tout. Et la Surface Pro 9, en fait, combine les gammes précédentes qui étaient Surface Pro X et Surface Pro classique, donc les versions ARM et Intel. En gros, c'est deux types d'appareils différents, mais qui sont regroupés dans la même gamme aujourd'hui. Donc, c'est des tablettes, soit avec ARM, soit avec Intel. Tout ça arrive le 25 octobre, hein, pour les Surface Laptop et pour les Surface Pro. Donc là encore, processeur de très grande qualité, machine de très grande qualité, c'est un petit peu dans ce type de produit le meilleur qu'on puisse espérer. Et puis, il y a le Surface Studio 2 Plus qui est... vous savez, le Surface Studio, c'était cet appareil un petit peu bizarre qui est en fait un grand, grand écran. Je ne sais plus combien il fait, 27 pouces peut-être.
28
mais
pouces.
28 pouces, c'est ça. Qui est sur un bras articulé et qu'on peut rabaisser à tel point que ça devient presque une table pour dessiner dessus, pour les designers, ce genre de choses. Et on peut le remonter pour en faire un écran normal. Et la machine elle-même est contenue dans le socle et du coup, elle est assez compacte, donc elle manque un peu de puissance. C'était un peu le reproche qu'on faisait aux versions précédentes. Aujourd'hui, ils ont ajouté une carte graphique qui n'est pas la carte graphique la plus puissante, enfin une carte graphique séparée, qui n'est pas la carte graphique la plus puissante de la gamme Nvidia, mais c'est quand même une RTX 3060, donc ça permet de faire des choses. Et c'est des appareils qui sont très chers, là, pour le coup. Je vous disais, les Surface Laptop et Pro commencent autour de 1000 euros. Là, on est à, enfin, un petit peu plus, parler de 1000 dollars. Là, on est à 4 500 dollars en prix de base. Donc, cet ordinateur-là, il est très, très cher. Et du coup, on va peut-être lui reprocher des performances un petit peu en retrait par rapport à des grosses bestioles. Bon, c'est une machine qui a une fonction spécifique, un petit peu de niche pour un certain type d'utilisation. Et là, c'est une version remise à jour de la Surface Studio 2, donc Surface Studio 2+, ils ne sont pas passés à la 3 parce que visiblement ils estimaient que cette mise à jour ne nécessitait pas de changer de numéro de modèle. Donc, bah voilà pour les annonces matérielles. Mon ange, fais pas trop de bruit s'il te plaît pendant le podcast, ok ?
D'accord.
Ok. Donc, c'est pour le matériel. Il y a d'autres choses qui, à mon sens, sont plus intéressantes encore que le matériel, dont on va parler dans un instant. Mais avant ça, je donne quand même la parole à Guillaume. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces annonces? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à retenir?
Écoute, c'est pas évident parce que les Surfaces, pour moi, c'est le genre de produit que je regarde toujours avec une forme d'admiration parce que ils sont bien faits, ils sont encensés, hein, quand tu vois des reviews en vidéo, quand tu vois des articles. Souvent, les retours sont globalement très positifs. C'est du haut de gamme. Moi, pour des prix qui sont finalement assez compétitifs par rapport à des produits chez Apple, par exemple. Donc, si on les positionne comme le même type de produit, ouais. Même si l'approche est un petit peu différente, c'est finalement assez compétitif. C'est intéressant, mais je me demande toujours vers qui sont destinés ces produits. Et moi, je reconnais humblement que je ne sais pas, en fait, qui est le cœur de cible des produits Surface. Même, alors, le pire étant le Surface Studio, parce que peut-être que c'est un produit qui fait un effet waouh dans des cabinets d'architectes. Tu vois, pour moi, c'est l'archétype de l'usage que j'y vois. J'ai quand même du mal à penser que ça puisse justifier la
c'est
production.
C'est pour ça et
de,
pour les produits, films futuristes ou genre où
oui,
des startups
dans les séries.
Place, tu vois, tu mets les.
pour faire du placement produit des produits Surface et des produits Windows de manière générale. Donc voilà, ça me laisse un petit peu circonspect, mais il faut reconnaître quand même que c'est effectivement des super produits. Probablement que le type de client idéal, c'est celui qui veut bah voilà, le PC polyvalent, il veut faire grosso modo un peu tout et n'importe quoi avec, et j'imagine qu'avec les produits Surface, il va avoir cette satisfaction-là, en n'ayant pas forcément de compromis, pas forcément de mauvaises surprises, en ayant les petites articulations au niveau des écrans qui vont bien, les connecteurs qui vont bien. Bon, tout va bien. Ce que je trouve assez cool, par contre, c'est qu'il simplifie un petit peu la gamme des Surfaces Pro là et des Surfaces Pro X. En gros, il n'y a qu'une seule tablette hein, maintenant. Alors, c'est une fausse promesse de simplification parce qu'il reste quand même deux processeurs. Il y a la possibilité de le prendre en Intel ou en ARM, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a des fonctionnalités avec le processeur ARM que tu n'as pas avec le processeur Intel. Hein. Il y a des compromis à faire, notamment dans le cadre de la démonstration et de la vidéo qu'ils ont faite. Il y a cette fonction qui est quand même assez cool, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si elle se manifeste souvent dans le quotidien, mais de pouvoir faire des visios en ayant un filtrage du son qui est remarquable. Et de l'aveu des personnes qui ont pu rapidement l'expérimenter, ça a l'air d'être très convaincant. En gros, tu es dans un studio de podcast, tu dois faire un podcast, et ben ça filtre les sons d'un enfant derrière qui est en train de jouer à la Switch. Donc bon, ça paraît top, mais ouais, il y a voilà, ce petit compromis sur le processeur à faire, ce petit choix.
C'est en fait, ils ont intégré l'équivalent des fonctions du logiciel NVIDIA Broadcast qui fonctionne avec les cartes graphiques NVIDIA qui permettent d'avoir tout plein d'effets sur le son, donc pour filtrer de manière vraiment convaincante les sons parasites. Et pareil, sur la vidéo, on peut flouter derrière, faire des effets comme ça qu'ils ont intégré du coup à leur produit.
J'allais dire que ton fils fait des bruits parasites, c'est pas très sympa. Quoi.
mais du coup, c'est vrai que ces machines, moi je trouve que t'es un petit peu dur avec elles. Alors oui, la Surface Studio, c'est vrai qu'on sait pas très très bien à qui elle sert, même si clairement ils continuent à produire, donc elle a des clients. Je pense que le marché n'est pas immense. Par contre, pour les autres produits, je pense que on a vraiment une cible qui est claire. C'est les laptops, c'est hyper simple, hein, c'est des ordinateurs portables et ils sont vraiment haut de gamme. Et les tablettes, c'est un petit peu les meilleures tablettes Windows du marché. Alors ensuite, est-ce qu'on veut des tablettes Windows? C'est une autre question. Mais je pense que c'est le produit qu'on peut montrer en exemple. Et justement, ils ont une autre fonction, ces produits, c'est de montrer à l'industrie et aux autres constructeurs ce qu'on peut faire quand on va dans l'excellence de ces catégories. Et d'ailleurs, ils partagent certains designs avec l'industrie pour dire, faites bien, faites comme ça, c'est bien, faites mieux. Tu vois, donc il y a aussi un effet porte-étendard de ce que peut être l'industrie. Et du coup, je ne suis pas certain qu'ils aient besoin d'en vendre des cartons par millions, tu vois, parce que ça influence le reste de l'industrie aussi et ils établissent un standard qui est copié ensuite, quoi.
Mais j'imagine aussi, et on va reparler de cette stratégie juste après, mais il y a une force de conviction probablement hein, de maintenir année après année tes produits que tu as lancés, de les rationaliser, de les faire évoluer avec les évolutions des composants, des technologies. C'est probablement très rassurant de voir que Microsoft, évidemment, n'abandonne pas ses produits et qu'ils ont des fers de lance comme ça sur chacune de ces gammes.
Et il y avait d'autres produits qu'ils ont présentés, mais pas des produits matériels. Ils ont montré au niveau logiciel une intégration qui est notable parce que c'est un truc dont on parle depuis un moment. C'est l'intégration de DALL-E 2, donc de la génération d'images par intelligence artificielle, par machine learning, et qui va être intégrée à l'application Microsoft Designer, qui est une nouvelle application, mais qui va aussi par ce biais être intégrée à d'autres outils de création dans les logiciels de Microsoft. Et du coup, l'utilisation est encore plus poussée, ou pas poussée, mais peut-être un petit peu simplifiée par rapport à ce qu'on peut connaître avec les requêtes qu'on fait à un robot qui va vous renvoyer une image un petit peu aléatoire. Là, on va effectivement faire des requêtes, mais on peut contrôler ensuite graphiquement, je veux telle couleur, je veux telle couleur, et il va vous le régénérer. Et du coup, c'est un outil qui est intégré aux outils Microsoft pour générer des images. Donc, c'est vraiment de l'utilisation concrète de ces outils dont on parle depuis un moment. C'est plus juste, vous avez ce truc avec lequel vous pouvez faire joujou. C'est vraiment que dans les outils de création Microsoft, on va pouvoir générer des images grâce à l'intelligence artificielle pour étoffer ses présentations, ce genre de choses. Et il y avait des exemples qui étaient évidemment assez convaincants. La technologie n'a plus ses preuves à faire à ce stade. Il y a d'autres éléments d'intelligence artificielle qui vont venir s'ajouter à une nouvelle offre pour Teams Premium, qui là sera peut-être même encore plus intéressante pour certains utilisateurs. Par intelligence artificielle, ils vont vous faire des résumés de meetings, des traductions en live, ce genre de choses. Alors, on n'a pas encore le prix, le service devrait arriver en février 2023, mais c'est une utilisation, là encore, concrète pour des produits de business, d'intelligence artificielle qui me paraissent vraiment intéressantes. Et on pourrait dire, attends, ils vont bien réussir à résumer les meetings, tout ça. Alors, c'est un outil qui va peut-être être utilisé pour ensuite étoffer le truc, faire un résumé de base, et puis on va ajouter des choses. Mais oui, moi, je pense que ça, l'intelligence artificielle a montré qu'elle peut, quand elle est bien entraînée, quand les modèles sont bons, tout à fait s'acquitter de ce genre de tâches, ou au moins faciliter la tâche de ceux qui doivent le faire ensuite. Je note la dernière chose, c'est que on a aussi Apple TV et Apple Music qui arrivent sur Windows. Il y avait déjà Apple Music sur Xbox. Et Apple TV et Apple Music, du coup, seront sur Windows et sur Xbox, ce qui est intéressant de noter que Apple étend un tout petit peu l'offre de ses produits comme produits d'Apple. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas le plus important. Moi, les histoires d'intelligence artificielle m'ont paru vraiment notables.
Ouais, il y a au passage d'ailleurs, il y a aussi l'intégration des photos iCloud sur Apple, enfin qui intègrent, qui vont arriver sur l'app photo, voilà, de Windows. Donc ça c'est aussi très cool. Quelque part, c'est bien quand même ce petit point parce que nombre de personnes peuvent être équipées aujourd'hui d'un iPhone, aimer cette expérience, mais avoir ce frein à ne pas avoir la continuité des usages de leurs photos. Ils voudraient peut-être parfois même un Mac pour aller retrouver leur bibliothèque photo sur leur PC, enfin sur leur ordinateur. Si jamais cette fonction est bien intégrée et que tout cela est bien intuitif pour l'utilisateur, ça peut être un chouette argument. Mais t'as raison, je pense que tout ce qui se passe d'intelligence artificielle...
Puisque t'as rebondi là-dessus, moi je pense que c'est pour les gens qui sont dans l'écosystème Apple sur, tablette et téléphone, mais qui ont un ordinateur Windows, qui puissent quand même avoir certaines fonctionnalités sur leur
ordinateur. Oui, bien entendu.
Peut-être parce que moi je suis dans ce cas que je me sens concerné.
Et j'allais te donner le témoignage que je te faisais était plutôt mon cas à moi. Ça peut être un des éléments de friction parmi plein d'autres qui peuvent m'empêcher d'avoir Windows. Mais sur l'intelligence artificielle, je te rejoins complètement. Autant la nouvelle gamme de produits Surface fera probablement pas de date dans l'histoire de la technologie en 2022, autant je suis bluffé, moi, semaine après semaine, de tout ce qui se passe sur les intelligences artificielles génératives. Je trouve que vraiment la démocratisation de ces outils-là est incroyable en 2022. J'ai l'impression que ce qu'on annonçait depuis des années, qu'on voyait arriver petit à petit, s'est démocratisé là depuis cet été. Et c'est très cool.
Coup, hein.
Alors, comment, pardon ?
Je dis d'un coup, c'est vraiment arrivé en quelques mois.
En quelques mois. Exactement, c'est en quelques mois, à partir de cet été, on a eu mid-journée sur Discord pour tout le monde. Là, depuis quelques jours, on a DALL-E 2 qui est disponible pour tout le monde avec inscription, donc c'est gratuit pour des premiers usages. Et pour moi, ça fait vraiment date, en fait, dans l'histoire de la tech, de voir ces outils arriver et se démocratiser autant. c'est très chouette qu'il intègre un outil et probablement que ça va concurrencer des Canva et compagnie. Je crois Canva, le service en ligne de génération d'images, avait déjà d'ailleurs des fonctionnalités un peu similaires, probablement pas appuyées sur DALL-E 2. Mais bon, voilà, on va les retrouver partout.
Sur Canva que j'utilise, qui est un outil de design, on va dire, simple pour le web et surtout pour les réseaux sociaux, on va dire les YouTube, ce genre de choses, il y a l'intégration de banques d'images. Effectivement, à ma connaissance, pas de
génération d'images.
Et là, effectivement, ça commence à s'intégrer. Et tu as raison, je crois que 2022, ça sera vraiment une année charnière dans ce domaine. Et Dieu sait qu'on en a parlé dans l'émission. Donc, bon, bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout, je crois, pour la conférence.
Un tout petit détail pour boucler. Est-ce que tu avais vu, toi, ce petit doc? Alors, pareil, hein, ça ne va pas être complètement révolutionnaire, mais ce petit doc audio de Microsoft qui est présenté pour... Alors, c'est $250. Il y a juste la possibilité de le jouer comme une enceinte et un doc pour ton ordinateur, donc avec la possibilité de brancher plein de périphériques. C'est probablement pas aussi puissant que ce que fait Logitech. Je crois qu'ils en ont un qui est très cher, le Logitech, le Logidoc, à près de $400. J'étais juste très intéressé de voir qu'il y avait aussi cette proposition de la part de Microsoft, un produit comme ça qui s'intègre sur ton bureau pour te rajouter de la connectique, te rajouter du son, t'aider aussi à avoir une restitution de tes conversations en meeting via Teams de manière qualitative, et même un bouton dédié pour Teams. Donc voilà, bon, c'est juste un petit détail que je voulais souligner. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, toi, de ton côté, ce petit bloc.
Je t'avoue que je suis même pas sûr de comprendre de quoi il s'agit. Tu le branches à ton ordinateur en USB-C.
C'est un doc.
C'est un doc.
Effectivement.
Donc tu le branches à ton ordinateur et derrière, t'as tout un tas de connectiques et le son et.
D'accord. C'est exactement c'est ça. Pratique. C'est une petite enceinte avec du volume sonore tout à fait agréable pour écouter de la musique et faire tes audios et tes meetings. Il y a des concurrents, mais c'est quand même chouette de voir que Microsoft propose ça. Peut-être que les entreprises vont s'équiper de ce type de produit pour employés.
Mieux de voir si ça marche sur Mac. C'est peut-être une
solution. Très bonne question. Très bonne question.
Je vais regarder ça. Ben, je l'avais raté. Écoute, merci de l'avoir signalé. Eh ben, écoute, la suite, c'est Meta Connect 2022. Et du coup, là, c'est un petit peu plus intéressant. Moi, je vais vous résumer ça de la manière suivante. Ils ont présenté leur nouveau casque qui s'appelle le Quest Pro, qui est vraiment un casque différent des casques Quest qu'ils ont présentés jusqu'ici. Les Quest et le Quest 1 et le Quest 2 étaient des casques donc autonomes, mais qui étaient destinés vraiment au marché des consommateurs traditionnels. C'était pas un casque pour les pros, c'était un casque qui était pour l'usage de la réalité virtuelle. Là, il présente un casque qui est beaucoup plus avancé en de nombreux points. Il est plus fin, il fait de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, mais il s'ouvre sur la réalité augmentée. Il a des nouvelles manettes qui peuvent d'ailleurs être utilisées avec le casque, avec les anciens casques si on les achète, mais il a des nouvelles manettes. C'est un casque qui s'appelle le Quest Pro et qui, pour le coup, porte bien son nom parce qu'il est destiné aux professionnels, aux créateurs de contenu et puis peut-être à ceux qui veulent préparer l'arrivée de la réalité augmentée dans les mains des consommateurs, de la réalité augmentée un petit peu plus poussée dans les mains des consommateurs dans 1, 2, 3, 4 ans quand Meta sortira ses technologies dans des casques plus abordables. Parce que, je vais pas parler du prix, il coûte 1 800 € en France. Donc évidemment, il y a plein de gens qui ont commencé à se moquer un petit peu du casque en disant « Mais enfin, le casque d'avant, il coûtait 400, maintenant, enfin 450, maintenant il coûte 1 800, mais qui va aller acheter un casque de réalité virtuelle à 1 800 €? Vous êtes fous !» Mais c'était un peu, disingenuous, un peu hypocrite de présenter les choses comme ça, parce que ce casque, il est beaucoup plus proche dans l'intention, pas dans la technologie, mais dans l'intention du HoloLens, qui était un outil pour professionnels, que d'un marché consommateur. Donc ça, c'est la première partie. Il y a toute une deuxième partie dont je veux parler dans un instant, mais à la limite, je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens dans l'audience. Il y a des gens qui en auront l'usage et qui vont s'y intéresser, qui vont le regarder, qui vont le vouloir pour différents usages professionnels. Mais si vous ne savez pas déjà que vous le voulez et que vous en avez besoin, bah c'est juste qu'il n'est pas pour vous, quoi, ce Quest Pro, je crois.
C'est un bon résumé, je pense. Ouais. Effectivement. Ne vous posez pas la question de est-ce que ça va me faire profiter des jeux vidéo de manière plus confortable chez moi. Je crois que tu l'as abordé dans le rendez-vous jeu. C'est pas pour ça.
Ouais. Oui, non, c'est pas du tout pour ça. Alors, lui aussi, il sera dispo le 25 octobre, hein, comme les produits de Microsoft. Je sais pas ce qui se passe le 25, mais...
Une livraison d'un grand cargo, peut-être, c'est dans ça. Plein de pays.
Il y a le canal de Suez qui a été débloqué, ils estiment.
C'est ça, il est débloqué le 25 octobre, tenez-vous prêts. Mais après, tu... Alors, effectivement, je pense que c'est un petit peu caricatural de dire « Ah, il est trop cher !» Bon, c'est peut-être un petit peu rapide. Je me demande quand même par rapport à ce qu'il a dans le ventre, quoi, tu vois, par rapport à la façon dont il est conçu, etc. Bon, ok, c'est cher, c'est pour les pros. Je me demande quand même si c'est toujours compliqué hein, de répondre à ce type de question. Mais est-ce qu'il les vaut ? Il y a Mark Zuckerberg d'ailleurs dans une interview qui répond à la question de cet ordre-là. Il dit, on lui demande en gros, est-ce qu'il va se faire de l'argent avec les produits Meta Quest, Meta Quest Pro, etc. Il dit clairement que c'est pas son objectif. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai.
À ce stade. Il développe la technologie, c'est pas oui.
Et c'est très cohérent avec son discours d'ensemble, donc quelque part on peut pas lui reprocher ça. Quand même, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que ça les vaut le fait d'avoir voilà cette finalement même si t'es un développeur, un créateur de contenu, en quoi le Quest pourrait pas déjà te permettre d'expérimenter plein d'usages, en quoi t'es limité aujourd'hui pour développer des apps, des services.
Je crois qu'il y a un gros élément réalité augmentée. Et je crois que l'industrie est en train de, à moitié réaliser, à moitié faire le pari, que le vrai usage démocratique, la réalité virtuelle, on se rend compte qu'à ce stade, c'est vraiment pour le jeu vidéo et c'est un usage niche du jeu vidéo. La réalité augmentée, par contre, peut avoir un usage vraiment, un usage utile pour les utilisateurs qui n'ont rien à faire de cette technologie, en fait, apporter un plus. Et ce casque a, par exemple, des optiques, des folded, machin, lenses, bidules, qui font que c'est très fin. Donc, on commence à s'approcher de lunettes, pas tout à fait du tout, hein, mais c'est beaucoup plus fin, par exemple, que les casques de réalité virtuelle, par exemple. En plus, ils ont la batterie sur le bandeau arrière. Bon, tout ça, c'est un petit peu accessoire, mais la réalité, c'est que... Enfin, ce qui est important, c'est que ça fait de la réalité augmentée. Et c'est ça... qui est une nouvelle catégorie, un nouvel usage qui va beaucoup plus loin que ce qu'on avait vu avec le HoloLens, qui est un petit peu le papy de cette technologie. Là, on va beaucoup plus loin. Et je crois que dans ce sens, oui, la réalité virtuelle, on peut déjà faire tout ça sur les Quest. Et d'ailleurs, pour faire de la réalité virtuelle avec ce Quest Pro, il faut rajouter des petits accessoires pour bien couvrir, tu vois, la lumière qui passe par sous le casque, etc. Donc, c'est pas son but premier. Lui, c'est la réalité augmentée. Et ces usages-là, c'est un petit peu, je caricature un peu, mais c'est presque un kit de développement pour réalité augmentée de Meta. Tu vois.
Ouais, et finalement, ça fait un point de comparaison avec ce qu'on imagine être le casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée d'Apple, justement.
Exactement, qui est décrit un petit peu de la même manière et on imagine qu'il va coûter un peu plus cher chez Apple. Et c'est un petit peu, il fait surtout de la réalité augmentée, un peu de réalité virtuelle aussi. Le casque d'ailleurs, enfin il y en a deux, mais il y en a un qui est prévu un petit peu comme ça. Et je me demande si les gens qui se moquent aujourd'hui du MetaQuest Pro vont pas être un petit peu plus convaincus par le casque d'Apple. Bon, d'une part parce que on fait un petit peu plus confiance à Apple pour introduire des nouveaux produits et des nouveaux marchés, c'est sûr. Et puis aussi parce qu'ils risquent de le présenter de manière un peu plus convaincante. Mais et puis un a priori négatif sur Zuckerberg, hein, ça c'est indéniable. Mais voilà, bref, ce casque-là, vous remarquerez que ça reste un petit peu flou quand même, et je l'admets volontiers. Il y a rien de méga concret dans les usages de ce casque, c'est de l'exploration, quoi.
T'es encore premier.
C'est fou, qu'est-ce qu'il est fort. Je pense qu'il s'améliore pendant le rendez-vous tech.
Oui, je sais pas, d'habitude, il est beaucoup moins premier que ça.
Et là, il est premier en 100 cm3, peut-être.
En fait, il fait des batailles. Et c'est difficile, les batailles. Il a 4 ans et demi, donc c'est pas facile. Les courses, encore, tu dois aller tout droit, mais les batailles, il faut savoir. Alors là, faut attraper le soleil, là, faut casser les ballons avec des bombes, là, faut machin, c'est pas facile. Donc, il est vraiment content. Il y a un autre aspect, quand je disais je vous invite chez moi dans l'émission, c'est pas que ça se cache.
J'adore.
Il y a un autre aspect de cette présentation qui m'a paru, à vrai dire, plus important encore que toute cette histoire de casque Quest Pro. C'est tout ce qu'il présente après, c'est un petit peu la recherche et développement sur le futur. Et il y a deux domaines que je veux mettre en avant. D'une part, le bandeau de contrôle neuronal, qui est vraiment impressionnant. Donc, c'est un bandeau, un petit bracelet, en gros, qui peut détecter les mouvements de votre main. Et même si on on l'entraîne bien, détecter les impulsions électriques que vous envoyez en pensant à faire quelque chose pour contrôler. Bah ensuite, bah c'est des signaux, hein, donc on peut déterminer que ça va contrôler tel ou tel élément. Mais c'est vraiment important pour à terme pour ce type d'interface, parce que sur un ordinateur, on a un clavier et une souris, sur un téléphone, on a l'écran. Sur un casque, bah, comment est-ce qu'on va contrôler un bandeau que vous posez à votre main et qui peut simplement, c'est plus pratique que d'avoir une manette dans la main, surtout quand on pense à des usages de réalité augmentée qui vont se développer dans des situations du quotidien. Et là, ils avaient déjà présenté cette technologie, mais ils continuent à la pousser et à tel point que, avec le bandeau qui réduit de taille, etc., et ben on peut vraiment détecter les impulsions qui sont envoyées sans même que on ne bouge vraiment la main. Donc ça, c'est vraiment la technologie du futur, enfin une technologie du futur qui est impressionnante. Et l'autre, c'est les avatars photoréalistes. Ils les avaient déjà présentés, je vous en avais déjà parlé. Là, il y a la version 2.0. Ils les appellent les avatars codec, qui, avec la plus ou moins la même technologie, enfin non, c'est pas vraiment la même technologie, mais qui permet aussi de scanner des objets simplement avec votre téléphone et de les importer dans votre monde virtuel avec une fidélité qui est quand même assez satisfaisante. Et vous avez juste tourné votre téléphone autour de l'objet et puis vous l'importez dans votre monde en 3D. C'est quand même pas mal. Et puis les avatars, il y a deux versions des avatars. Alors les avatars qui prennent beaucoup, 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 beaucoup de temps à calculer et qui ensuite peuvent être animés et qui forment un modèle, mais vraiment photoréaliste de la personne avec des expressions impressionnantes, etc. Et puis, il y a les Instant Avatars qui utilisent la même technologie, mais de manière moins poussée. On va scanner notre visage avec le téléphone, là encore. Et puis, il va calculer ça. Ça prend plusieurs heures, malgré tout. Mais au final, on a un avatar qui est, alors pas aussi photoréaliste que les avatars codec, mais qui est franchement impressionnant. Même la version instant qui prend quelques heures est vraiment impressionnante. Et tout ça, ça pousse vers un truc que je parle quand je parle du métavers depuis un moment, qui est l'idée d'avoir des environnements, des personnes présentées de manière photoréaliste, ce qui amène à la technologie de la réalité virtuelle ce sentiment de présence et de téléportation poussée qui deviendront vraiment, qui à mon sens, là, pourront peut-être trouver une utilité.
Bravo mon cœur, mais je travaille maintenant.
Et qui pourront vraiment avoir une utilité, je crois, pour cette idée de téléportation et de présence, d'aller quelque part vraiment avec son casque de réalité virtuelle. Alors, c'est des trucs qu'ils avaient déjà présentés, mais franchement, si vous avez l'occasion, alors j'avais mis le lien vers la présentation en 13 minutes dans la newsletter, vous pouvez vous abonner, je fais toujours les trucs comme ça à ne pas rater dans la newsletter, mais allez chercher Codec Avatar 2.0. C'est difficile de pas être impressionné quand on voit l'avatar de Mark Zuckerberg qui bouge les sourcils, qui bouge peut-être même plus que le vrai Mark Zuckerberg, qui a une expression un peu figée comme un cyborg, mais c'est plus
son
cette
avatar
partie,
est plus expressif
vois,
que l'authentique.
C'est ça. C'est plus cette partie recherche et développement futuriste qui m'a paru intéressante et impressionnante dans la présentation de Meta.
Ouais, et c'est pas les premières fois en plus qu'on voit des choses de la part de Meta qui sont souvent bluffantes et qui ont vraiment un effet waouh. Et objectivement, je pense que si on regarde avec un temps long, tout cela est très enthousiasmant. Moi, je me réjouis que la technologie avance très très vite à ce sujet-là. Je suis toujours gêné sur ces propositions de métavers. Et en fait, j'ai de plus en plus de mal à dire pourquoi. Et donc, tu vois, il y a quelque chose d'assez irrationnel de ma part par rapport au métavers, par rapport à ces technologies auxquelles on pourrait être confronté. J'utilise le mot sciemment confronté dans les années à venir. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi. J'ai des faisceaux de questions qui me viennent très vite. Notamment, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est bien le lieu comme ça, des conférences annuelles pour montrer des choses qui sont aussi basées sur de la recherche et qui sont basées sur des usages futurs? Il le dit tout le temps, hein, Mark Zuckerberg, ça, c'est les usages de dans quelques années. Et finalement, est-ce que c'est bien le lieu de 5-10 ans? Voilà, on est sur des temps longs. Et puis, je me faisais aussi la réflexion de l'arrivée de ces technologies-là avec la manière dont on a digéré le smartphone. Je me permets une petite parenthèse pour promouvoir, Patrick, un podcast des chaînes de radio. Donc, tu vois, on est loin du format où on nous entend dans notre salon. Mais Le Code a changé, qui est un podcast sous l'enseigne de France Inter, que je trouve vachement intéressant. Le dernier épisode parle de la manière dont on a digéré en société le smartphone. Et finalement, quelque part, ça s'est imposé dans nos sociétés de manière très intéressante et forcément très bénéfique sur plein d'aspects. Et en même temps, à côté de ça, la société s'est pris ça de plein fouet avec tous les inconvénients que ça peut représenter d'avoir la peur de casser son écran, de le protéger, de le réparer, de le changer pour avoir les usages qui vont suffisamment bien par rapport à nos besoins. Le fait d'avoir cette présence comme ça des réseaux sociaux dans notre poche toute la journée. Et quelque part, j'en viens à la conclusion qu'on n'a pas, en tant que société, bien digéré l'arrivée du smartphone. On se l'est pris de plein fouet, ça nous a mis une grosse gifle. C'était très cool, ça nous apporte beaucoup de choses et il faut vraiment voir tout ce qu'il y a de bénéfique. Mais je me dis, finalement, en gros, moi, j'en viens à la conclusion que j'ai pas envie, quoi. Et c'est assez irressationnel et de manière objective que j'ai envie. Non, on s'en fout.
De métavers.
Oui. Et des usages de restitution d'un avatar de manière très photoréaliste, de la possibilité d'acheter des biens numériques comme des tenues, comme ça a été présenté dans la conférence. Finalement, j'en viens à la conclusion, et vraiment c'est mon témoignage perso et je prétends pas que ce soit le ressenti des gens, mais que j'en ai pas envie. Et probablement de manière très irrationnelle parce qu'on est une société, une génération qui a vécu l'arrivée du smartphone, qui a bouleversé notre quotidien. Je sais pas si quelque part ça contribue à expliquer ce sentiment, je sais pas ce que t'en penses toi. Je trouve qu'à chaque fois que tu en parles du métavers, tu en parles de manière assez objective et je pense pas que tu aies un parti pris rempli d'engouement ou de scepticisme. Mais du coup, j'aimerais bien savoir ce que toi, Patrick, tu penses de ce métavers s'il arrivait dans quelques années. Est-ce qu'il est désirable pour toi ?
Tu sais, c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que c'est comme dire, justement, essayer d'estimer l'impact des smartphones au moment où j'exagère un petit peu, mais au moment où on découvre le télégraphe, tu vois. Bon, non, vraiment, tu comprends que j'exagère.
Oui.
Mais on est très, très loin de ce que ça va donner parce que quand je parle de téléportation, c'est l'idée ultime de la réalité virtuelle, téléportation dans des endroits qui existent ou qui n'existent pas. Et puis, il y a tout cet aspect réalité augmentée qui est une autre branche de cette technologie qui pourrait avoir des usages vraiment différents. Si on parle de réalité virtuelle, moi, j'ai toujours cette curiosité technologique, j'aimerais voir où ça va. Donc, je te dirais, si je laisse de côté mon appréciation objective un instant, je te dis oui, moi, j'ai envie de voir ce que ça veut donner, parce que il y a cette... Je ne sais plus où on en parlait, mais il y a aussi cet aspect vidéoludique où on tend vers plus de réalisme dans les jeux vidéo depuis la création du média. Alors, il y a toujours des choses qui ne sont pas réalistes, mais il y a aussi l'évolution technologique qui fait que c'est de plus en plus réaliste. Et ce type de choses, c'est le réalisme ultime. Et du coup, moi, je m'imagine je m'imagine enfant jouant à Donjons et Dragons, où je me souviens de moi, enfant jouant à Donjons et Dragons. C'était mon fantasme d'aller explorer ces mondes d'heroic fantasy avec des orcs, des trolls, des...
Et méthode.
Quelque part, les jeux vidéo nous permettent ça aujourd'hui, mais si je peux mettre un petit casque et y aller... C'est Ready Player One, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah, Ready Player One, c'était c'était pour nous prévenir que ça serait horrible, c'était pas un livre d'instruction, tu vois, mais je comprends pas, moi, ce cynisme, parce que comme si on a... Enfin, si tu prends la littérature de science-fiction... C'est toujours catastrophiste dans tous les domaines. À ce moment, on fait plus rien, tu vois, on s'assoit et on bouge plus. Donc, j'ai envie d'explorer, de voir ce que peut donner la réalité virtuelle à un moment où elle sera vraiment développée et où la technologie la permettra vraiment. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça sera pas bien? Je crois qu'il faut être un petit peu... Peut-être qu'on est dans cette génération où beaucoup de gens disent « Ah ben non, j'en veux pas ».
Très irrationnel d'ailleurs, moi je me mets dedans. Hein.
Ça s'explique, c'est peut-être même rationnel parce qu'on est dans un monde quand on est plus jeune, on peut s'adapter plus facilement. Quand on est plus âgé, ben on a besoin de ses habitudes, de machin. Mais on pourrait, enfin, on le sait tous, on pourrait dire ça de toute l'histoire de la technologie. Je suis sûr que quand tu vois quelqu'un a taillé la première roue, il y a quelqu'un qui disait ah, « Enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde où tout va trop vite ?» On était quand même mieux quand nos bœufs tiraient les charrues, tu vois. Ouais. Enfin, non, parce qu'il faut des roues pour les... Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai tendance à ne pas trop écouter ce genre de commentaires parce que ils sont pas basés sur quelque chose de concret. C'est juste qu'ils aiment pas Zuckerberg et ils aiment pas Facebook et donc ils partent du principe que ce qui va se passer de leur côté, ça va être négatif. Et autant ce qui se passe avec les téléphones mobiles et les réseaux sociaux et tout ça, c'est que on est arrivé à mon sens, hein, on est arrivé à un stade où les nouvelles technologies, les nouveaux paradigmes sont tellement installés qu'on s'est habitué aux bénéfices et qu'on n'en pointe du doigt que les défauts. Et Dieu sait qu'on le fait aussi dans l'émission, hein. On en parle beaucoup des défauts de ces technologies et de ces modes de communication. Mais les avantages sont immenses, et on n'en parle plus parce qu'on les a intégrés. Donc, il y a un certain biais dans les analyses de ces choses-là. Maintenant, par rapport à ce que présente Zuckerberg et tu parlais du futur et de ce qu'il essaye de nous vendre, il faut avouer que ce qu'il nous vend aujourd'hui, bah, c'est pas hyper sexy. Ça, je te l'accorde. Par exemple, Horizon World, alors j'aime pas dire son métavers parce que le métavers, c'est pas ça. Les gens comprennent pas ce qu'est le métavers. Le métavers, c'est, selon sa vision, une interconnexion de tout plein d'environnements 3D réels ou pas. Donc, c'est pas, mais son environnement 3D Horizon World n'a attiré que 200 000 utilisateurs actifs mensuels. Leur but était d'en avoir 500 000. Et les mondes ne sont pas visités par beaucoup de gens, les différents mondes. Enfin, il y a plein de problèmes. Ils ont enfin annoncé le fait qu'il y aurait des jambes aux avatars parce que c'était juste trop bizarre de ne pas avoir de jambes. Moi, je me dis, on va attendre de voir ce que va faire Apple. On va attendre de voir ce qui se passe avec le nouveau casque de Sony. On va attendre de voir 5 ans, 10 ans, de voir ce qui se passe avec le développement de cette technologie. Parce qu'aujourd'hui, on peut juste... Et s'il y a une chose que vous devez retenir de ce que je dis sur tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas juger. Si quelqu'un vous dit « ça va être génial », vous savez qu'il raconte n'importe quoi. Si quelqu'un vous dit « ça va être horrible », vous savez qu'il raconte n'importe quoi parce qu'on ne sait pas. On en sait.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi et je pense qu'il faut regarder ça pour ce que c'est présenté. J'ai juste le sentiment qu'il y a une forme d'ambivalence dans le discours et des présentations comme MetaConnect, comme celles qui ont eu lieu. C'est que finalement, ce type de présentation et ce type de prise de parole d'entreprise, on nous a habitués à avoir la fenêtre de ce qui allait sortir, allez, l'année prochaine, dans 2 ans. Mmh. Et finalement, à chaque fois que Mark Zuckerberg présente ses propositions autour du métavers, que ce soit des propositions matérielles, alors Modulo Quest, évidemment, c'est très concret, mais quand on nous parle des nouveaux produits pro Quest, quand on nous parle de Horizon Worlds, quand on nous parle des usages futurs, bah finalement, c'est à très loin. Mais est-ce que c'est bien approprié, finalement, de communiquer chaque année et sur des temporalités auxquelles on nous habitue pour des trucs autant longs? Bon.
Disons que Apple, par exemple, ne fait pas du tout ça. Et je crois que Meta, là où je rejoins les critiques, ils ont besoin de changer un petit peu leur image.
Carrément.
Aussi, tu vois. Donc, c'est genre, oh non, mais regardez-nous ce qu'on fait, c'est ça. Donc, bon, ils n'ont pas mentionné Facebook une fois, je crois, pendant leur présentation. Donc, bon.
Apple, ils n'ont pas mentionné Apple.
Ils ont pas non, je veux dire, ils ont pas mentionné Facebook parce qu'ils veulent nous.
Ah oui, le réseau social Facebook,
tu vois. Ouais. Meta ne veut pas. Non, ils ont mentionné Apple en disant genre nous on est pour les trucs ouverts, pas les écosystèmes fermés, ce qui est complètement ridicule par rapport à leur attitude avec Facebook et Instagram justement. Mais c'était une pique envoyée à Apple pour la question de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Mais ça ne tient pas, c'est pas. Enfin, ça tient, mais c'est pas cohérent avec ce qu'ils font par ailleurs. Bref.
Je vais d'ailleurs pas rallonger le sujet Meta trop longtemps pour te faire exploser ton temps d'émission, mais il y a d'ailleurs à ce sujet l'intervention de Mark Zuckerberg dans une question-réponse de The Verge en format podcast qui est très cool hein, d'ailleurs à suivre où il dit que le monde ouvert de la technologie a gagné, je sais plus quels étaient ces mots exactement, mais était incarné par Microsoft dans les années 90. Je trouvais ça assez curieux de sa part de trouver que Windows dans les années 90 était l'hégémonie de la technologie ouverte. Mais bon.
Mais et pourtant, alors oui, c'était fermé et il était un petit peu rapace. Mais non, mais n'importe qui. Ce qui veut dire, c'est que n'importe qui pouvait développer une application pour Windows, la sortir sur Windows. Mmh. Quoi, ça, c'était vraiment complètement ouvert. Et c'est vrai. C'est vrai. Windows, c'était un écosystème qui était accessible à tous les développeurs et n'importe qui pouvait l'utiliser comme plateforme pour atteindre les... Bon, après, ce que faisait Microsoft avec ses clients, ses fournisseurs, tout ça, c'est autre chose. Mais au niveau plateforme, ils étaient très ouverts. D'une manière, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, qui n'existe plus tout à fait. Les plateformes comme les réseaux sociaux, c'est très fermé. Les mobiles, c'est relativement fermé. Même un mobile comme Android, c'est beaucoup plus fermé que ne l'était Windows à l'époque. Alors, ce n'est pas le même monde. Il y a Internet, il y a plein de menaces, tu vois, qui font qu'on ne peut pas être juste aussi... On a trop accès aux appareils de tout le monde. Donc, forcément, c'est difficile de tout laisser ouvert, mais... Bon, bref, ça serait un sujet intéressant d'ailleurs, là, la question de l'ouverture des plateformes dans l'histoire. Je pense qu'il y a quelques fans d'Unix, je ne dis même pas de Linux, mais quelques fans d'Unix qui sont en train de s'étrangler en m'entendant dire que Windows c'était très ouvert. On se comprend, vous voyez ce que je veux dire.
Ça fera de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est parfait, c'est vous.
C'est ça. Comment ? Quoi ? Qu'est-ce que. Bon, bah écoutez, justement, à propos d'engagement, vous savez quel est le meilleur engagement possible pour moi ? C'est le fait que vous aimiez l'émission. Oui, vous pensiez que j'allais dire autre chose. Non, c'est le fait que vous appréciez l'émission, que vous passiez un bon moment, que vous appreniez quelque chose, que vous soyez diverti et que vous ayez envie d'écouter la suivante, parce que c'est pour ça que je fais ce métier et que je vous propose des épisodes toutes les semaines. Et... si jamais, vous voyez, il y a une petite option, vous voyez, c'est ouvert, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous appréciez bien, si vous pensez que c'est sympa, que c'est cool, eh ben, vous pouvez contribuer à cette aventure. Vous pouvez rentrer dans le petit bateau qu'on mène depuis quelques années, depuis presque 10 ans professionnellement maintenant, en allant sur patreon.com/rdvtech et vous choisissez une somme à attribuer à l'épisode. À la fin du mois, vous êtes facturé. Et voilà, c'est super simple, vous créez un compte, vous mettez votre moyen de paiement, ça prend, allez, 2 minutes montre en main, et vous contribuez à cette aventure. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez me faire. Et c'est surtout un signe d'un petit engagement quoi, pour le travail des créateurs comme moi. Et je vous encourage à considérer l'idée d'aider les créateurs que vous appréciez, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent dans ce milieu et dans cette activité. Sans votre participation, on ne peut pas vraiment faire ce métier. En plus, vous avez des bonus, hein, vous savez, les time codes, l'absence de pub, des petits contenus bonus. Alors, les dernières semaines... Je vous avoue, ça a été compliqué, comme je vous en ai parlé dans l'émission. Donc, il y en a eu un petit peu moins, mais ça va revenir la semaine prochaine. On revient à la normale, tout ira bien. Et je vous remercie par avance de faire le petit cling, Patrick. Un grand, grand merci à tous ceux qui, quand ils rentrent chez eux et mettent les clés dans le bol, se souviennent qu'il y a un Patreon pour le rendez-vous tech, patreon.com/rdvtech. Cling les clés, Patrick. Je vais voir sur Patrick.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Le reste de l'actu avec le jingle.
Elle fait presque aussi bien que le vrai.
J'essaye. Est-ce que tu sais qu'il y a un moyen de faire des sortes de photos ou au moins d'imagerie par ADN et que ça pose quand même problème, cette histoire.
Je l'ai appris. Je l'ai appris en suivant les notes de l'épisode et il faut que tu nous racontes ça, effectivement, Patrick.
Alors, en fait, c'est une technologie qui est... Alors, il y a différentes sociétés, peu importe, mais il y a... Je vais vous résumer. Il y a une, un centre... Pas un centre de police, comment on dit bref, une enquête qui était menée par la police au Canada, à Edmonton, et ils étaient arrivés au bout de leur recherche. Ils ont fait appel à une société qui s'appelle Parabon Nanolabs, qui a utilisé l'ADN d'un suspect qui avait été trouvé peut-être sur les lieux du crime, on n'a pas tous les détails, mais l'ADN pour reconstituer le visage présumé de la personne. Et ils ont utilisé ça pour poster la photo, en fait, en tout cas le composite du suspect sur les réseaux sociaux, etc., pour demander de l'aide pour le retrouver. Et ça pose, évidemment, énormément de problèmes. On peut comprendre l'idée de se dire « Ah ben, on a de l'ADN, peut-être qu'on peut reconstituer. » Mais le problème, c'est que la reconstitution est extrêmement, extrêmement vague. C'est plus qu'estimatif. Il y a, d'une part, le visage de la personne qui est, on va dire, vraiment... on peut le décrire. Si je vous donne une description de la personne, c'est, vous en saurez autant que si vous voyez la reconstitution du truc. C'est genre, évidemment, dans ce cas précis, c'était une personne noire, ça ne surprendra personne. Mais donc, c'était, on va vous dire, un homme noir qui a, je sais pas, les yeux marrons. Voilà, super. C'est à peu près ce que vous... Alors, j'exagère, mais à peine, parce que ne serait-ce qu'un problème essentiel auquel on ne pense pas forcément immédiatement, mais il est impossible de savoir l'âge de la personne. Il est impossible de savoir la corpulence. Et ça change la forme du visage, évidemment. Il est impossible... Enfin, il y a plein d'éléments qui sont impossibles de savoir. Enfin, je ne sais pas, la coiffure, là. Du coup, ce que vous allez dire, ça va correspondre à tellement de descriptions que autant ne rien donner, parce que vous allez juste... Alors, en plus, si on va avoir une personne qui est issue d'une minorité qui est victime de discrimination, en plus de ça, ça va pousser ces stéréotypes et la discrimination, et on va regarder toutes les personnes qui correspondent plus ou moins, c'est-à-dire la moitié de la population, et on va dire « Attends, mais c'est pas telle personne qui machin... » Et le composite ne correspond pas vraiment... c'est une description très vague, quoi. Donc, c'est une technologie qui est évidemment hyper intéressante, mais l'utilisation ici semble être vraiment une erreur. Et d'ailleurs, le responsable de la police qui avait mis en place ce système l'a retiré et s'en est excusé quand il s'est rendu compte que, effectivement, en comprenant les critiques, il a retiré la chose. Donc, c'est technologiquement intéressant, mais problématique, quoi.
Oui, effectivement. Je ferai pas du tout la blague qui vise à dire que les avatars qui sont restitués sont moins convaincants que celui présenté par Mark Zuckerberg dans MetaConnect. Ce serait trop facile. Un point qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est que les bases de données d'ADN qui sont utilisées par le programme, par l'intelligence artificielle pour restituer comme ça des critères, c'est des bases de données qu'on peut alimenter aujourd'hui et qu'une partie d'entre nous, je pense, quand on fait nos petits tests ADN qui nous sont proposés par des services, il y a Family Tree notamment, DNA, il y en a plein d'autres, hein, 23andMe je crois. Et en gros, quand on envoie des infos, quand on envoie notre ADN pour avoir des infos sur notre background, potentiellement, selon les services, c'est de l'information qui peut être transmise. En matière de RGPD, je ne suis pas certain que ce soit complètement compliante, mais bon.
Je crois que, tu sais, quand tu envoies ton ADN pour faire ces analyses, tu donnes ton accord, tu vois, il faut signer 1000 trucs.
Et pour le RGPD est censé permettre justement de limiter les... Bon, on n'a pas de juriste avec nous.
Ils te disent clairement, tu signes ton contrat avec ton sang, littéralement, ils disent, oui, là j'ai voulu. RGPD, c'est pour limiter l'utilisation non informée et le contrôle des bases de données, effectivement. Mais là, alors je ne sais pas s'il y a ce type de base de données en Europe, si c'est permis ou j'en sais rien. Bon. J'ai même pas, d'ailleurs, c'est même pas des bases de données, c'est des, alimenter des modèles qui vont ensuite reconnaître,
oui,
certaines
choses. Des modèles.
Et donc, ce qu'on peut reconnaître, c'est, parce que j'ai pas été très précis là-dessus, mais ce qu'on peut reconnaître, c'est plus ou moins, avec une certaine confiance, sur une certaine plage, la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, et puis certains éléments de qualité de la peau, genre si on a des taches de rousseur, ce genre de choses. Et voilà, et c'est à peu près tout, et il y a quand même une petite plage, et ensuite, la forme du visage, c'est un peu approximatif, quoi. Bref.
Une bonne partie d'entre nous peut correspondre à pas mal de suspects identifiés sur ces images,
ça,
je,
oui,
pense.
C'est ça. Il y avait dans la newsletter, j'ai aussi mis cet article, et il y a des images qui montrent des exemples de la personne, enfin, le modèle 3D qui a été reconstitué, et la personne qui s'est trouvée ensuite. Tu te dis, alors oui, si tu plisses les yeux bien, oui, effectivement, ça correspond un peu, mais il y a des trucs ridicules, genre ils avaient mis une personne qui avait, je sais pas, peut-être 18 ans, qui semblait avoir entre, allez, 20 et 25 ans, et la personne avait effectivement 55, quoi. Donc, tu vois, rien que ça, tout de suite. Bon, bref. Voilà, ça, c'était censé être une petite news rapide, mais il y en a une autre qui est vraiment rapide, c'est l'arrivée des taxis dans Uber à Paris. Alors, il y a quelques petits astérisques. D'une part, c'était déjà le cas. Il était possible de commander des taxis dans d'autres villes, en particulier aux États-Unis et je crois en Amérique du Sud. Et surtout, c'est uniquement des taxis indépendants. Il y en a quelques centaines qui sont aujourd'hui intégrés dans l'app. Mais du coup, on peut effectivement commander aujourd'hui un taxi dans l'app Uber quand on est à Paris. C'est vraiment symbolique, hein, j'en parle parce que évidemment, l'arrivée d'Uber a créé un conflit monumental avec les taxis et les sociétés de taxis. C'est intéressant parce que les réactions, c'était des trucs du genre chez les taxis. Ah, bah, enfin, Uber comprend qu'on ne peut pas lutter. Il se rentre dans le droit chemin, plus ou moins. C'est rigolo parce que évidemment que l'arrivée d'Uber a amené une concurrence qui a poussé les taxis à beaucoup évoluer de leur côté aussi.
Ouais.
L'expérience du taxi aujourd'hui est très différente de celle qu'on avait en 2010 avant l'arrivée d'Uber. Même si moi j'ai pris un taxi pour rentrer de l'aéroport hier, c'était marrant parce que je lui demande, je peux payer par carte, hein. Il me dit, oh bah si vous voulez, vous pouvez aussi payer en liquide, hein.
Ah, ils ont pas tant changé que ça.
Et puis la discussion, tu sais, c'était genre à la fin on arrive et il me dit, ah mais là vous, parce qu'il y a un petit détour à faire pour arriver juste, vous pouvez, mais là c'est à quelques mètres, non, je peux vous laisser là. Je dis, ah bah, je préfère s'il vous plaît, parce que je suis avec le petit, j'ai les bagages et tout. Il dit, ah oui, c'est pour quelques mètres, ok, vous êtes sûr? Je dis, bon, ok, c'est bon, alors ok, laissez-moi là. Il me dit, ah bah faut pas vous énerver, monsieur. Bah ok, non mais je vais vous accompagner. Ok, pas de problème, c'est pas grave, monsieur, machin. Faut avouer que avec un Uber, t'as jamais ce genre de problème, quoi. Alors après, c'est
on a beaucoup de taxis
des notes,
qui sont très
ce
bien,
genre de choses qui posent d'autres problèmes par ailleurs, peut-être. Mais ceci dit, le conducteur de taxi était très sympa. Ça s'est très bien passé. C'est juste que c'était marrant. Il y a les habitudes ont du mal à changer complètement, quoi.
Mais du coup, c'est ce type de petite expérience telle que tu en témoignes qui peut faire pencher la balance quand tu lances l'app Uber, de choisir plutôt un taxi, plutôt un Uber classique, etc. Peut-être. Je pense que c'est... Bon.
Peut-être. Mais ceci dit, on a parlé un petit peu pendant le trajet, on a parlé des véhicules électriques, qu'est-ce qui va changer, les problèmes évidemment d'essence, où ils vont pour prendre... Enfin, tu vois, c'était très sympa. Et il a pris la carte bleue, il n'y avait pas de problème au final, quoi. Autre modernisation incroyable, l'arrivée du Pass Navigo sur iPhone et Android. Alors ça devrait arriver très bientôt, hein, pour iPhone ça sera à l'été 2023, et sur Android c'est possiblement, alors ça c'est en cours de test, bref, ça arrive, on pourra avoir des tickets et nos Pass Navigo. Alors là on part encore de Paris, mais il y a d'autres villes, je suis sûr. Encore que sur iPhone c'est intéressant parce que La petite info surprenante, c'est que Apple, on sait qu'ils contrôlent quand même tout et qu'ils veulent avoir la main sur tout, et ben ils sont carrément fait envoyer des portiques de la RATP à Cupertino aux États-Unis pour tester les choses dans leurs locaux à eux, pour s'assurer que tout va bien. Et la mise à jour, l'arrivée de la technologie qui permettra de faire ça, et annoncé par la RATP pour juin-septembre 2023, c'est-à-dire qu'a priori, ça arrivera avec la prochaine version d'iOS. Donc, il faut une mise à jour d'iOS pour que ça puisse fonctionner. Mais bon, ça arrivera. Écoute, ça n'a pas pris si longtemps, hein. L'iPhone est sorti en 2007.
Voyons, on a.
Je suis mauvaise langue.
J'étais à Paris, dommage.
Je suis mauvaise langue. Le NFC, c'était pas aussitôt sur iPhone et surtout, il était verrouillé par Apple pendant très longtemps. Donc, je suis méchant.
Ouais, ouais. C'est quand même les seuls à Apple, chez Apple, à avoir envie de restituer Châtelet, l'ambiance de Châtelet les Halles chez eux, dans leurs locaux quand même. Mais...
Tu sais, depuis les travaux, c'est pas si mal Châtelet les Halles.
Il y a du mieux.
Il y a du mieux. Est-ce qu'on on tombe de nos rêves de pandémie, de commerce, un petit peu ? Allez, je vais vous faire deux petites news. D'une part, il y a eu, vous savez, beaucoup de sociétés, de start-up, de livraison ultra rapide qui se sont lancées pendant la pandémie en particulier. Eh bien, aujourd'hui, il en reste moins de la moitié. Il y en avait eu une douzaine qui s'étaient lancées aux États-Unis et en Europe. Il en reste moins de la moitié. Et on pourrait se dire, alors oui, c'est normal, il y a une consolidation, il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde. Donc, mais elles ont encore des pertes énormes. Elles ont plus de financement. Et donc, ça ne sent pas très bon pour ces startups de livraison. Vous savez, ces livraisons en 10 minutes, là, dont on a débattu de l'utilité à plusieurs reprises dans l'émission. Et en plus de ça, une chose qui est intéressante, c'est que les gros du secteur de la livraison et de l'achat en ligne, comme Amazon, Shopify, etc., les gros de l'e-commerce, eh ben, ils sont en train de reculer dans leurs investissements et dans leurs opérations qu'ils avaient mis en place pendant la pandémie, parce qu'ils se rendent compte que les habitudes qui se sont développées pendant la pandémie, eh bien, reviennent à la normale pré-pandémique. Et vous allez me dire, ah bah oui, c'est normal, c'est plus la pandémie, machin, mais non, parce que on se demandait à un moment si la pandémie n'avait pas provoqué une accélération de plusieurs années des habitudes d'achat en ligne. Certains disaient, bah oui, ça a accéléré de 5 ans, 10 ans, ce qui aurait pris 5 ans à 10 ans à s'installer et qui devrait rester installé. C'est juste que ça a accéléré. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que, ben non, les gens recommencent à faire leurs achats à l'extérieur, à sortir, à vouloir vivre dans la vraie vie, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Zuckerberg et le métaverse, hein, peut-être. Mais les gens reviennent aux habitudes d'achat pré-pandémique. Alors, est-ce que ça reviendra ensuite parce qu'il y avait cette histoire d'accélération ? On n'en sait rien, mais ça ne fait pas les affaires d'Amazon, Shopify et les autres qui, je vous rassure, ne sont quand même pas à plaindre, mais c'est un constat intéressant.
C'est intéressant que tu branches effectivement le métavers de Zuckerberg, bon, le métavers plutôt, parce qu'en fait justement ça montre à quel point des choses qui nous paraissent évidente au premier abord dans les évolutions des usages, des technologies. Bah finalement, la réalité est parfois un petit peu plus un peu différente, un peu plus nuançable. Et c'est intéressant de voir que non, c'est pas parce que ça nous paraît tout dessiné vers un avenir préécrit que les choses s'arrêtent à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce type de service, les grands seront probablement beaucoup plus capables demain de les activer à la minute ou au besoin pour des durées déterminées si jamais de nouvelles crises, des nouveaux confinements devait arriver, ils seront préparés. Mais on sait maintenant que ce ne sera pas durable d'un coup, quoi.
A priori. Mais tu sais, dans le métavers, le problème, c'est qu'il faut que ça soit super photoréaliste, tu vois, qu'on aura l'impression
d'y être. Et oui, c'est bien ça qui gêne.
C'est le paradoxe de Fermi, c'est pour ça. Quand c'est vraiment assez photoréaliste, on n'a pas besoin d'aller conquérir d'autres planètes et d'autres mondes et de voyager dans les étoiles. On est très bien chez soi avec notre métavers de Zuckerberg, tu vois, quand c'est...
Ah.
Bon, il y a d'autres projets qui se passent plus ou moins bien, notamment dans le domaine des cryptos et des NFT. CNN avait lancé Vault by CNN, qui était un projet NFT où on pouvait acheter, selon leurs termes, des morceaux d'histoire, donc des articles de CNN, des articles ou des morceaux de vidéos de CNN, en NFT. Ils l'ont lancé en 2021 et ils le ferment aujourd'hui. Malheureusement pour ceux qui ont dépensé des milliers de dollars dans l'achat. Alors, ils peuvent toujours aller les consulter. Hein. Ils ont leur site Vault qui est toujours disponible, mais ils ferment complètement le projet. Clairement, c'est bon, une brique de plus à mettre au nombre de projets NFT qui se sont... c'est marrant parce que c'était des grandes sociétés qui sont lancées avec la hype et qui se rendent compte aujourd'hui que peut-être soit ils n'en ont pas besoin, soit ça ne marche pas aussi bien qu'ils l'avaient espéré. Il y a aussi, dans le domaine des NFT, des artistes et des œuvres d'art, un artiste qui s'appelle Damien Hirst, qui est un Anglais, qui a brûlé des milliers de ses tableaux en direct sur Instagram dans un projet de NFT parce qu'il les avait numérisés avant et il les a transformés du coup en objets numériques achetables et vendables par NFT. Et là, vous allez vous dire, mais il a brûlé des milliers de tableaux, c'est incroyable. Enfin, faut comprendre aussi, c'est pas pour diminuer la valeur de ses œuvres, mais les tableaux en question, c'est des canevas blancs sur lesquels il y a des petits points de toutes les couleurs. Et ils sont tous des variations sur ça. C'est-à-dire, et c'est pas des points genre de différentes tailles ou machin, c'est presque des stickers, peut-être même qu'il avait avec des stickers, tu sais, de bureau, quoi. T'as les trucs pour catégoriser rouge, vert, bleu, jaune, et il y en a sur tous les canevas, et c'est ça, ces tableaux. Donc, c'est pas non plus qu'il a c'est intéressant artistiquement, certainement, et technologiquement, mais c'est pas un truc qui, je crois, a demandé un travail, tu vois, artistique fou de technique, c'est pas qu'il a brûlé des Rembrandt, tu vois, par exemple. Donc, bon, c'est juste à noter. Mais tout n'est pas si négatif dans le monde des cryptos, puisque la Société Générale a reçu l'accréditation de l'Autorité des marchés financiers pour la vente et l'achat d'actifs numériques. Et c'est un truc qui n'est pas facile à obtenir, que presque personne n'a obtenu. Je crois qu'il y a Binance en France. Et la Société Générale l'a obtenu. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils l'ont fait au moment de la hype? Et maintenant, ils se disent, bon, on a l'autorisation. Mais je ne sais pas si on va s'en servir, j'en sais rien. Mais... Donc voilà pour le petit point crypto-NFT.
C'est sympa d'avoir cette météo crypto-NFT comme ça. Mais c'est... Là aussi, hein, c'est pareil. Hein. Finalement, c'est vraiment la continuité de notre épisode. C'est... Quel avenir on peut trouver désormais à ces technologies? Parce que longtemps, on pouvait les critiquer. On nous disait, et on disait d'ailleurs, oui, mais on n'a probablement pas identifié les usages futurs, les potentiels apports pour la société. Bon, faudra les trouver quand même.
Je t'avoue que moi, qui suis vraiment sur cette ligne de « on ne sait pas » parce qu'on n'a pas, peut-être pas trouvé les usages, j'avoue que bon, au bout d'un moment, tu vois, ça fait quelques années, je ne sais pas s'il va falloir 10 ans, parce que ce n'est pas que la technologie évolue et qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs. Et je sais qu'il y a des gens qui vont m'envoyer des emails en me disant « mais non, tu n'as pas vu ceci, cela, ok, d'accord ». Mais même moi, je commence à me dire « oui, bon, bah, de fait, il semble qu'il n'y ait pas des usages incroyables et qui motivent les foules, quoi. » Mais on verra, peut-être que tout à coup, demain, les choses vont changer avec un truc, une trouvaille folle qui va me retourner sur cette question, quoi. Allez, quelques petites news en vrac, en supplément. D'abord, il semblerait que la stratégie podcastique de Spotify ne fonctionne pas super bien. Vous savez que Spotify a racheté plusieurs boîtes de prod de podcasts et qu'ils les ont rendus exclusifs à leur application, à leur plateforme, ce qui a mené à une attrition de l'audience. Alors, on pouvait s'en douter, hein, évidemment, si ils ne sont dispo que sur cette plateforme, bah, ça va réduire l'audience, mais l'audience a vraiment été réduite de manière importante. Certains parlent de 75% de chute d'audience, et il y a des producteurs prestigieux comme Michel et Barack Obama qui n'ont pas renouvelé leur deal, c'était en 2020, je crois, il y a un moment, qui n'ont pas renouvelé leur deal. Et du coup, on est en train de constater, il semble, que l'écosystème des podcasts s'est développé de manière ouverte, avec un accès qu'on attend d'avoir à toutes les émissions. Et donc, ça ne fonctionne pas. De le mettre dans la boîte de Spotify, ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Vu tout ce que j'ai vu comme signaux à droite à gauche, je me demande si Spotify va pas à un moment dire « bon, bah, on laisse les podcasts aller, même nos podcasts sur toutes les plateformes, et puis on monétise chez nous, parce que comme ça, c'est au moins, on a le bénéfice de la disponibilité universelle, quoi. »
Bon, d'autant que je ne sais pas s'ils ont besoin de, finalement, ça pour convaincre les gens que Spotify, c'est une chouette plateforme, quoi. Enfin, moi, je connais beaucoup de personnes qui, évidemment, écoutent de la musique sur Spotify, qui ne jurent que par ça. Et c'est très bien. Et du coup, s'ils intègrent en plus les podcasts, bah tant mieux, finalement, si tu as toute ton expérience dedans. Après, les rendre exclusifs.
Leur stratégie, c'était pas le hold-up, mais c'était de faire le Netflix, tu vois, d'attirer les gens pour qu'ils aient accès à ces émissions-là.
Ça n'a pas marché.
Exclusif, tu vois, et ça, c'est ça qui ne semble... Les gens qui écoutent des podcasts les écoutent là où ils sont. Ils ne semblent pas être prêts, en nombre suffisant, à aller vers une application spécifique pour écouter tel ou tel podcast. Il y a peut-être aussi le fait qu'il n'y a pas de... Alors, il y a des stars des podcasts, mais elles semblent ne pas attirer suffisamment. Je pense que les stars sont... Alors, il y a des gens comme, bah justement, les Obama, les... merde, comment il s'appelle l'ancien commentateur de catch ? Putain, Joe Rogan. Voilà.
Joe Rogan.
Joe Rogan, oui, évidemment, des gens comme ça, je pense que les gens vont aller les écouter, eux, là où ils sont, mais c'est pas suffisant. Et puis, il y a beaucoup de podcasts qui sont plus familiaux, tu vois, où on a juste... c'est cool d'avoir quelqu'un, mais je sais pas si demain... Si moi, mon podcast n'est plus disponible sur les plateformes habituelles, je ne sais pas si les gens qui écoutent maintenant aujourd'hui vont se dire « Ah bah merde, je vais aller trouver Spotify et installer Spotify pour écouter Patrick ». Certains, certainement, oui. Les vrais, les plus forts, tu vois. Mais,
je pense qu'il y en a beaucoup, moi, personnellement.
Ah,
mais...
merci, merci. Google a annoncé qu'ils allaient supporter, soutenir la Pixel Watch pendant au moins 3 ans avec leur mise à jour et leur mise à jour de sécurité. Ça me paraît peu, moi, 3 ans. Je suis, tu vois, il y a quelques années, j'aurais dit, bah, 3 ans, ok, c'est très bien, mais aujourd'hui, un produit technologique, si tu vas dire, je le garantis tant de temps, faut dire, je sais pas, 5 ans, ça me choquerait moins, je sais pas si c'est arbitraire, mais au moins 5 ans, tu vois. Au moins 3 ans, c'est cheap, enfin, c'est problématique même.
Ouais, c'est pas très sérieux, et décidément, cette Pixel Watch, elle déçoit, hein, sur plein d'aspects, j'ai l'impression, et je sais, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un coup raté. Google est capable comme ça de rater alors qu'ils ont toutes les clés et toutes les cartes en main pour faire le produit qui peut plaire. Je pense encore une fois que les smartphones qu'ils font sont très convaincants, mais visiblement sur d'autres segments, ils ont beaucoup de mal à réunir toutes les conditions pour convaincre. Tant pis, dommage.
Écoute, la Watch, moi j'en ai vu plutôt des bonnes reviews, la Watch en elle-même. Il y a des petits aspects un peu décevants peut-être, mais dans l'ensemble, je la trouve pas mal. Bon, c'était surtout sur la question des mises à jour, mais écoute. Voilà pour ce petit commentaire. Il semblerait, on parlait de Apple TV Plus tout à l'heure, il semblerait qu'Apple soit possiblement en train de préparer une version payante peut-être, mais en tout cas avec publicité, d'Apple TV pour 2023. C'est vraiment à la mode puisque Netflix...
La tendance.
Et complètement. Netflix va lancer son offre avec publicité, qui est moins chère, le 3 novembre, dans différents pays, y compris la France. Alors, ça coûtera 7 €, si je ne m'abuse, et vous aurez accès à une grosse partie du catalogue Netflix. Il y a une partie qui ne sera pas disponible pour des raisons de droit. Et ça, ça faisait un moment qu'on en entendait parler. Entre parenthèses, on n'aura accès qu'en 720p, et on ne pourra pas télécharger les émissions, donc c'est quand même assez restrictif. Pour 7 €, je crois que Disney Plus est à quoi, 8 €? Enfin, ils vont sûrement augmenter encore à un moment. Et à côté de ça... Couronne d'or. Bravo.
Ah, et non.
Et non, mais c'est la deuxième fois.
Bravo.
Là. Bravo.
Très assidu.
C'est bientôt fini, hein, mon cœur. On va bientôt arrêter dans 10 minutes. Ouais, ok. Oui, parce que 1 heure par jour, les week-ends et pendant les vacances, et ça suffit. Après, faut aller.
Il aime les podcasts. Il aime quand t'enregistres, quand son papa enregistre des podcasts, parce qu'il a du rap de Mario Kart.
Mais du coup, Netflix, donc cet abonnement, c'est d'autant plus intéressant que ils viennent de mettre en place une fonctionnalité qui permet de transférer ces données de visionnage et donc de personnalisation et l'historique vers un nouveau compte. Pourquoi ? Parce que en 2023, ils vont certainement se mettre à punir ou à bloquer les gens qui partagent leur compte. Donc tout se met en place, tu vois. Il y a l'abonnement moins cher, le transfert de données de visionnage d'un compte à l'autre, et la suite logique, ça va être bon. Bah maintenant, ton cousin entre guillemets qui habite 3 pays plus loin, tu vois, bah il pourra plus utiliser ton compte du tout. Donc il va falloir que je dise à ma maman qu'elle doit se prendre son compte Netflix elle-même.
À quelle transparence dans tes émissions.
Bah oui, écoute, j'avoue, c'est pas interdit, hein, donc voilà.
C'est sûr.
Et enfin, et je te laisse la parole juste après, Twitter est en train de tester une fonctionnalité pour empêcher les gens de nous mentionner. C'est intéressant ça, parce que le principe de Twitter, c'est justement la possibilité d'alpaguer n'importe qui dans le monde, et ben là, on pourra limiter la mention de notre nom, par exemple, aux personnes qu'on suit. Donc, quelqu'un qu'on ne suit pas ne pourra pas nous mentionner. Alors, évidemment, on peut utiliser le « at » truc, mais ça ne va pas se transformer en non cliquable et ça va pas vous signaler que quelqu'un vous a mentionné. C'est un changement un petit peu de philosophie pour Twitter, mais évidemment c'est un moyen de lutter contre le harcèlement. C'est un test hein, à ce stade. Il n'est pas dit qu'ils vont le mettre en place, mais c'est un test qui est intéressant à mentionner, je trouve. Donc voilà,
ouais, ça c'est intéressant. Un petit paquet de trucs, là. Ah, écoute, je pense que tu as tout bien dit, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça. Mais quand même, côté Twitter, c'est cool de voir ce type de fonctionnalité. Il y a quand même des situations de harcèlement auxquelles on peut être très, très vite confronté. Alors, pas moi, perso, bien entendu. Mais il y a quand même des personnes que je suis qui témoignent de situations de harcèlement particulièrement virulentes avec des créateurs de contenu qui peuvent être hyper toxiques. C'est fou hein, que ça puisse être un canal encore aujourd'hui qui laisse autant de déversements de haine. Et je pense que ça peut vraiment faire souffrir certaines personnes. Donc, très bien. Petite pensée quand même émue à ceux qui sont en train de développer des fonctionnalités chez Twitter en ne sachant pas de quoi l'avenir est fait. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Tu vois, le développement d'une fonctionnalité en interne chez Twitter, c'est quoi ? C'est tu fais valider, t'oses pas présenter ton projet. Je me demande comment ça se passe vraiment.
Eh ben justement, je vais le mentionner très rapidement. Un petit coin politique en un instant parce qu'il y a quand même une news qui est importante que je veux mentionner. Mais d'une part, je vous parlais à un moment du fait que le Parti républicain américain reprochait à Google de marquer ses emails en tant que spam. Et Google a développé un programme pilote pour whitelister en fait les emails de campagne politique. Le truc, c'est que le Parti républicain n'a pas rejoint ce programme parce qu'il est, selon eux, trop limitatif. Le problème, c'est que Google leur impose leur demande d'adhérer à des bonnes pratiques.
Ah oui, ça ils aiment pas.
De mail. Bah, le truc c'est que si je vous donne je vais vous donner un exemple. Hein. En quelques années, le nombre de mails envoyés par le Parti républicain, les démocrates font mieux aux États-Unis, mais j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du fait qu'ils recevaient beaucoup de mails aussi. Mais il y avait dans le Parti républicain, ils envoyaient jusqu'à attends que je te dise pas de bêtises, c'est 8 ou 10 mails par jour. Avec des invectives du genre « Vite, il faut donner de l'argent maintenant, sinon c'est la fin du monde, envoyez de l'argent tout de suite !» avec plein de points d'exclamation, enfin, toutes les pratiques qui sont symboliques du spam. Et du coup, Google voudrait leur imposer de ne pas avoir ces pratiques. Et en plus, ils veulent mettre un gros bouton « Unsubscribe » dans le mail, ce qui évidemment n'arrive pas, enfin dans le mail, en haut du mail, comme on le fait avec, on peut l'avoir avec d'autres types d'outils. Et du coup, ça ne convient pas au Parti républicain. Il y a une opposition qui est quand même un petit peu... comment dire ? Il y a une certaine hypocrisie où le Parti républicain veut continuer à envoyer du spam, quoi, parce que concrètement, c'est « It walks like a duck, talks like a duck, it's a duck », quoi. Et là, ça ressemble beaucoup à du spam. À côté de ça, bon, il y a eu toute l'histoire avec Elon Musk et Starlink avec l'Ukraine. Il voulait plus. Il disait que ça lui coûtait trop cher de soutenir les communications, enfin d'offrir les communications aux Ukrainiens. Et puis finalement, après les commentaires qu'il avait fait, il y a eu des engueulades comme par hasard. À ce moment-là, c'est le moment qu'il a choisi pour dire non, je ne veux pas. Et puis finalement, il a dit OK. C'est super dur, hein, mais on va quand même continuer à le faire. On va subsidiser machin. OK, bon, bref. Starlink continue à fonctionner en Ukraine. Mais le plus important, c'est Kanye West, dont on parlait la semaine dernière, qui s'est fait bannir de Twitter pour des commentaires antisémites de Twitter et d'Instagram, qui a décidé de racheter Parler. Alors, c'est quoi Parler ? Vous vous en souviendrez peut-être. C'était un des premiers réseaux sociaux qui a... Non, Siri, ça va vraiment. Là, c'est pas la peine. J'ai déjà suffisamment de voix dans ce studio d'enregistrement de podcast professionnel. Bon. Parler, c'était l'un des premiers réseaux sociaux qui s'est posé en tant qu'alternative liberté de parole, vous entendez les guillemets, à Twitter. Leur idée, c'est que, là encore, les voix d'extrême droite, enfin, les voix de droite, sont censurées sur les réseaux sociaux. Et donc, sur leur réseau à eux, on ne censure pas les voix de droite. En pratique, ça donne un réseau qui est quand même assez à l'extrême de la droite, où les choses qu'on ne censure pas, c'est essentiellement des propos limites, voire over the line, sur des questions de racisme, de sexisme, etc. Et donc, Kanye West a décidé, suite à son bannissement, de racheter Parleur, entre parenthèses, Parleur ne fonctionnait pas très très fort. Hein. Il y a beaucoup d'entre-soi et puis il y a des problèmes de financement. Bah là, ils n'auront plus de problèmes de financement, c'est Kanye West qui le rachète. Et il dit qu'il veut créer un écosystème qui est uncancelable, où on ne peut pas canceller les choses. Alors, je ne sais pas si ça va devenir une pratique fréquente chez les milliardaires et les millionnaires de racheter leur propre réseau où on pourra pas les en, dont on ne pourra pas les sortir, peut-être. Mais le rachat devrait se terminer à la fin du trimestre, là, 2022. Donc, ça sera, c'est beaucoup plus certain que la question Twitter. Ils ont trouvé un accord et ça va se faire, là. Donc,
on n'a pas le prix, hein, sauf erreur de ce rachat.
Que je sache, non, on n'a pas le prix. C'est moins, beaucoup moins que les 44 milliards de Twitter.
C'est ça.
Je te le garantis.
C'est moins que Twitter. Ouais. Mais écoute, non, je pensais
c'est
juste
ça mon commentaire à moi aussi. C'était ouais. Tu vois, c'était ça.
Oui, c'est vrai que. En fait, tu as l'impression que d'en parler plus, ça donnerait encore plus de crédit à ce genre de rachat. Mais bon. Ouais. Je réfléchissais juste au mail tout à l'heure quand tu décrivais cette situation. Ils n'ont pas des systèmes de désabonnement. Les gens acceptent justement de recevoir autant de mails qu'envoyés par les partis politiques. Tu vois, ça m'interpelle qu'on puisse encore recevoir autant de mails. Mais...
Bah, tu parlais de RGPD tout à l'heure. En Europe, on a l'obligation d'avoir des liens pour se désabonner des mailing lists dans la mailing list. Je pense pas que ça soit le cas aux États-Unis.
Bonne question. Je pensais que c'était qu'il y avait un équivalent, mais peut-être pas.
Je crois pas. Je pense que c'est les bonnes pratiques, hein, mais dans ce cas-là, on n'est pas vrai. Il semble qu'on ne soit pas tout à fait dans cette configuration-là, quoi. Et puis deux histoires importantes mais que je vais mentionner comme ça pour que vous les sachiez, pour que vous en entendiez parler, mais qu'on ne va pas commenter plus que ça. Toutes les analyses des dernières décisions de Joe Biden envers la Chine semble montrer que, vous vous souvenez peut-être que Joe Biden a décidé de restreindre l'accès à la Chine aux technologies de développement de puces, de fabrication de puces, technologie américaine. Donc il y a tout un tas de sociétés américaines qui ne peuvent plus vendre leur technologie à la Chine, qui aurait aidé la Chine à développer son industrie de fonderie de puces. Et donc toutes les analyses semblent dire que ça va vraiment avoir un impact important, à tel point que ça pourrait changer un petit peu l'équilibre économique dans ce domaine. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que c'est des sujets où je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça, donc parfois je ne les évoque pas, mais là, il y a eu tellement de discussions sur ce sujet, je pense qu'il était important de le mentionner. Et puis l'autre, c'est un combat entre The Wire, qui est une publication tech, et Meta, donc Facebook, dans lequel The Wire a accusé Facebook d'avoir donné accès à des autorités. Alors, c'est un petit peu flou, mais des autorités en Inde pour la suppression, la modération de contenu sur Facebook. Vous savez qu'il y a de gros problèmes en Inde sur ces sujets, avec des lois et des abus qui sont importants depuis, allez, on va dire un an ou deux. Et donc Meta a accusé Facebook d'avoir donné accès, ou en tout cas le gouvernement indien, d'avoir accès à des outils qui lui permettaient de supprimer des contenus sans rendre de compte à personne. Meta a dit non, 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 c'est pas du tout vrai. The Wire a dit, bah si, regardez, on a les screenshots, on a tout. Meta est revenu en disant non, mais vos trucs là, c'est faux. Ces screenshots, ça a été fabriqué avec une page Work, c'est Workspace, je crois, dans laquelle ils ont utilisé le logo d'Instagram pour faire croire que c'était... Donc, on espère que vous êtes victime, mais c'est clairement un hoax, ça. Donc, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Meta est droit dans ses bottes en disant non, non, ça, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes avec la modération et en particulier les connivences avec le gouvernement en Inde. Mais sur ce point précis... C'est pas une histoire qui est fondamentalement hyper intéressante pour les auditeurs, c'est pour ça que j'en ai pas parlé les semaines précédentes, mais là, il y a un tel combat entre les deux que vous risquez de commencer à en entendre parler, et je voulais le mentionner pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est vraiment The Wire qui a fait un article à charge contre Meta, et Meta qui dit « mais on est désolé, vos preuves, elles sont fabriquées, elles sont fausses. » Donc, on ne sait pas qui a raison dans l'histoire, mais malgré, enfin, c'est pas que je porte Meta dans mon cœur, Mais pour dire des trucs aussi définitifs, je pense qu'ils ont bien analysé le truc et que, enfin, ils sont tellement droits dans leurs bottes, je me dis, tu peux pas dire ça si tu, si t'as pas, effectivement, les autres n'ont pas été victimes d'une, d'une sorte d'arnaque à l'information, quoi. Donc, on verra.
On peut raisonnablement faire pencher le curseur du côté de la possible manipulation.
Peut-être un tout petit peu, tu vois, que les journalistes de The Wire se soient fait avoir, c'est possible. Alors eux aussi, ils restent droits dans leurs bottes, mais peut-être qu'ils sont en train de regarder leurs sources, de vérifier, de voir de quoi ils en retournaient à ce stade. Là, ça date d'hier, il y a la dernière communication de Meta. Bon, bref, encore une fois, c'est pas une histoire qui est super méga intéressante en soi, mais du coup, le combat et l'aller-retour sur oui, c'est un hoax, c'est une information, a fait que je voulais quand même le mentionner parce que vous risquez d'en entendre parler. Là, vous saurez de quoi il en retourne. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode, je dois dire, assez délicieux. Compagnie, Guillaume.
Plaisir aussi. Tiens, je t'entendais dire que ta vocation, que ta mission, c'est évidemment de faire passer un bon moment aux auditeurs, mais aussi à tes co-animateurs. Écoute, je peux que dire que je confirme ce sentiment. J'ai passé un très bon moment avec toi aussi.
Merci beaucoup d'avoir été là. Si les auditeurs veulent prolonger les bons moments, dis-moi, où peuvent-ils te retrouver, Guillaume ?
Alors, sur Twitter, le plus simple, c'est de taper Guillaume Vendée, tout attaché, vous le retrouverez, c'est probablement dans les notes de l'épisode. Et puis, si la tech vous intéresse, que vous en voulez encore plus, vous pouvez vous abonner à Tech Café, et si un autre podcast, et si jamais vous aimez vraiment les podcasts au point de vouloir parler de productivité, développement personnel, je fais aussi Relife, R-E-L-I-F-E, tous les 15 jours, un podcast qui sort un peu de la tech, même si on en parle un petit peu aussi.
Évidemment, on n'est jamais très très loin. Merci beaucoup Guillaume, merci à toi. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout. Vous connaissez NotePatrick.com pour tous les liens, mais vous savez quoi ? Vous n'avez même pas besoin d'aller sur NotePatrick.com. Vous allez dans les notes de l'émission et vous avez tout. Vous avez la newsletter dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Vraiment, vous pouvez vous abonner, je pense que vous ne le regretterez pas. Et si vous le regrettez, vous pouvez vous désabonner très facilement. Hein. On est en Europe, il y a le lien dans la newsletter elle-même. Vous avez aussi le Discord, où on discute de plein de choses super sympas, super intéressantes. Vous avez également le Twitch. Alors aujourd'hui, je vous passe les détails, mais ce matin, je ne me sentais pas très bien, donc on n'a pas fait le live, même si je vous l'avais promis, je suis désolé. Mais d'habitude, le mardi midi, on est en live sur Twitch, et le jeudi pour le rendez-vous jeu. Et puis bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvtech, dont le lien est aussi dans les notes de l'émission. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez faire partie de la famille, de l'aventure, de la famille des Patriotes, patreon.com/rdvtech. Ben, ça va être tout pour nous. On se retrouve du coup dans une petite semaine avec un petit peu moins de Mario Kart dans l'émission. Je vais quand même voir. Tu veux dire au revoir aux gens de l'Internet ? Non, tu veux pas ? Tu veux pas juste dire au revoir ? Tu veux pas ?
Okay, bon. Il est trop plongé dans un dernier combat là, sur
Mario. Non, mais il me regarde, il me dit non, c'est bon. Okay, bon ben, je vous dis au revoir de sa part également. Et on se donne rendez-vous du coup dans une semaine. Merci Guillaume, merci à tous et à toutes, et à très vite. Ciao, ciao.